Dans notre petite étude journalière, on est jeudi, mais on n'est pas seulement Stam jeudi, on n'est pas Stam Yom Hamishi, on est également le jour du 17 Tammuz, Yotzayin Betammuz. Et donc, eh bien évidemment, je me suis dit que c'était évidemment le moment de parler un petit peu du jeûne que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce qu'il est semblable à celui qui va clore la période que nous ouvrons aujourd'hui, à savoir Tisha B'Av? Ou est-ce qu'il n'a une autre vocation? Alors, Tisha B'Av, on parlera à Tisha B'Av, mais ce jeûne du 17 Tammuz qui ouvre cette période qu'on appelle les 3 semaines, c'est-à-dire ces 3 semaines qui séparent le 17 Tammuz à Tisha B'Av, quel est son rôle? Quel est le rôle premier du 17 Tammuz? Eh bien, avant de pouvoir répondre à cela et de répondre à la question, mais qu'est-ce que c'est que ce 17 Tammuz et à quoi sert-il? Eh bien, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Oui, ça paraît évident et ça paraît. Bon, pas besoin du rafison pour parler de ça. Mais je me suis rendu compte avec une toute petite expérience, pas une grande expérience, mais une petite, que les choses les plus évidentes sont les moins connues. Si je demande aux gens, mais pourquoi on jeûne le 17 Tammuz? D'abord, il faut savoir que le jeûne du 17 Tammuz n'est pas vraiment un jeûne, on va dire, très populaire. Peu de gens vont jeûner, peu de gens même vont savoir qu'aujourd'hui, c'est un jeûne. Alors que Tisha B'Av est beaucoup plus important dans la conscience populaire. Qu'est-ce que c'est que ce 17 Tammuz? Qu'est-ce qu'on commémore le jour du 17 du mois de Tammuz? Certains diront, les plus informés, qu'il s'agit là de la première brèche dans la muraille de Jérusalem. J'entends, c'est vrai. Mais ce n'est pas du tout que cela. Lorsqu'on regarde dans la Mishnah, eh bien, tout simplement, la Mishnah dans le traité excusez-moi, la Mishnah dans le traité de Taanit, le truc qui part en cacahuète. La Mishnah dans le traité de Taanit, au chapitre 4, Mishnah 6, nous dit la chose suivante. Chamisha devarim eru et avotenu beshiva asar betamuz. Cinq choses sont arrivées à nos ancêtres le 17 Tammuz et cinq également à Tisha B'Av. Avant même de rentrer dans qu'est-ce qui s'est passé, cinq face à cinq. Et ça ne peut pas ne pas nous faire tilt. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on regarde dans le judaïsme, les choses vont dans le bon sens. Lorsqu'elles parlent de choses positives, eh bien, elles vont par 10. Elles vont par 10. Car le 10 est le chiffre qui symbole l'unité, le chiffre qui symbole la shefa, l'abondance. Be'asara ma'amarot nivra olam, nous dira la Mishnah dans Pirkei Avot. C'est par 10 paroles que Dieu a créé le monde. Il y aura 10 miracles qui auront lieu dans le Beth Amikdash. En d'autres termes, les 10 sont les 10 plaies d'Égypte dans lesquelles Dieu s'est dévoilé au monde. Les 10 commandements. Aseret HaDibrot, bien sûr. En d'autres termes, lorsqu'il y a un dévoilement Batsad à Tov, eh bien, ça passe par 10. Ici, il y a également un dévoilement de Dieu, mais un dévoilement de Dieu par la douleur. Et donc, ça passe par 5 et 5, pour nous dire qu'il y a eu une brisure. D'un autre côté, le fait que ce soit 5 et 5, et pas que ce soit complètement aléatoire, nous montre que même dans les moments difficiles, eh bien, on n'est pas abandonné par le Créateur. Même dans les moments difficiles, la présence de Dieu est toujours près, toujours là, et donc nous pouvons en tirer également un enseignement. Et c'est justement cet enseignement que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Donc, cinq choses sont arrivées à nos ancêtres le 17 Tammuz. La Mishnah les compte. Elle nous dit que tout d'abord, eh bien, il y a eu le fait que les Louchot Abrit ont été détruites. Les premières tables de la loi ont été détruites. On parle de lorsque Moshe Rabbeinu descend du Har Sinaï la première fois et qu'il descend et qu'il voit les Bnei Israël ayant fait le veau d'or, eh bien, il va briser les tables de la loi. C'est la première chose qui s'est passée le jour du 17 Tammuz. La seconde chose qui s'est passée au niveau chronologique, eh bien, il semblerait que la Mishnah nous parle de Boutal Batal Atamid. Que le Corban Tamid, vous savez, tous les jours, on donne un Corban au Beth Amikdash, eh bien, ce Corban a été annulé. C'était le jour du 17 Tammuz. C'est pas encore très clair de quoi il s'agit. En plus, on va nous parler d'un autre moment qui est la première brèche dans la muraille de Jérusalem. Quatrième chose, il y a un monsieur qui s'appelle Apostamus qui a détruit, brûlé le Sefer Torah. Et enfin, une statue a été mise en place dans le Héchal du Beth Amikdash. Voici les cinq choses qui sont arrivées le 17 Tammuz. Essayons de comprendre plus en profondeur de quoi il s'agit. La première brisure a eu lieu au niveau des tables de la loi. Moshe a brisé les tables et cette brisure, finalement, est à mettre directement en relation avec l'endroit où doivent être présentes les tables de la loi, à savoir le Kodesh HaKodashim. Les tables de la loi, c'est là-bas qu'elles sont, normalement, dans le Kodesh HaKodashim. Il y a donc, et d'ailleurs, ces tables de la loi brisées vont tenir place dans le Kodesh HaKodashim aux côtés des nouvelles tables de la loi qu'on recevra plus tard. En d'autres termes, cette brisure commence dans le Saint des Saints. Et on va comprendre pourquoi, tout simplement. Lorsque les Bnei Israël font le veau d'or, eh bien, ils montrent que là où il devait y avoir des kérouvim, c'est-à-dire des chérubins en or, qui servaient de relation entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, qui devait avoir lieu dans le Beth Amikdash, dans le Saint des Saints, eh bien, on a fait un veau. Nous dira Tehilim, vaya miru et kevodam betavnit shor ochel esev. C'est-à-dire, le problème du veau d'or, c'est qu'on a fait passer les kérouvim pour un animal, un taureau, un veau. Les kérouvim étaient des statues à visage d'homme, homme, un garçon et une fille. L'homme s'élève au-delà de la nature. C'est notre condition à nous qui nous relie notre corps avec notre neshama. Cette liaison entre le corps et la neshama s'appelle, dans le langage de la Kabbalah, Kodesh HaKodeshim. Alors que, en représentant notre idéal par un bœuf, un veau, un taureau, l'homme est chané, c'est-à-dire un animal qui baisse sa tête vers la nourriture et non pas qui élève la nourriture à sa bouche, eh bien montre qu'il est esclave de sa dimension naturelle, esclave de sa dimension animale. Cette première brisure donc a lieu dans le Kodesh HaKodashim. La deuxième brisure, on a dit, c'est Boutal HaTamid. C'est Boutal HaTamid. Eh bien, on peut tout simplement le voir. Alors ici, je vous amène au Talmud Yerushalmi. Voilà. Dans le Talmud Yerushalmi, dans le traité de Ta'anit, chapitre 4, à la Chahei, on nous raconte qu'est-ce qui s'est passé. Qu'à l'époque du conflit entre les Juifs et les Juifs, entre Aristobulus numéro 2 et Hyrcanus numéro 2, qui étaient tous deux les enfants de Alexandriana et roi Hashmonaïte, donc on est juste après l'époque de Hanouka, eh bien, le roi Alexandriana, qui était roi et Cohen Gadol, a eu deux enfants. Il s'est dit, il n'y a pas de problème, il y en a un que je vais mettre roi et l'autre que je vais mettre Cohen Gadol. Le problème, c'est que celui qui a été désigné pour être roi, il voulait être également Cohen Gadol, et celui qui a été désigné pour être Cohen Gadol, il voulait être également roi. Et donc, vous imaginez bien, tout de suite, ils se sont fait la guerre tous les deux. Mais une guerre terrible. Une guerre qui, au départ, il y avait, si vous voulez, une pause. Une pause tous les jours, deux fois par jour, pour Korban HaTamid, Shel Shachar et Ben Arbaim. C'est-à-dire qu'on arrêtait les combats et ceux qui étaient cantonnés dans la région du Beth Amikdash, eh bien, attendaient que ceux qui étaient de l'autre côté fassent parvenir un korban de l'autre côté de la muraille pour qu'on fasse le korban HaTamid. Parce que korban HaTamid, c'est plus important que nos petits combats. Et puis, à un moment donné, le 17 Tammuz, très certainement des années, alors on ne va pas donner une année fixe, mais on parle des années moins 63. Alors, c'est peut-être en moins 64, c'est peut-être en moins 65, en moins 62, etc. Mais on va dire en l'année moins 63, le 17 Tammuz, eh bien, la faction qui était à l'extérieur du Beth Amikdash, à savoir Hyrcanus numéro 2, eh bien, tout simplement décide qu'on arrête de donner les corbanes. En d'autres termes, ça rime avec le moment où on a demandé l'aide des Romains et les Romains sont arrivés à la place d'un corban, c'est-à-dire à la place d'un animal prêt à être sacrifié au Beth Amikdash, on fait venir un cochon à la place, Vezebuta l'Atamid, et ça va être le début des enchaînements, des réactions en chaîne qui vont amener à la destruction du Beth Amikdash. Buta l'Atamid, c'est donc une deuxième faille, mais cette fois qui n'a pas lieu dans le Kodesh HaKodashim, puisque finalement, eh bien, le Mizbeach se trouve dans le Echal, dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le Kodesh HaKodashim, mamash à l'intériorité de l'intériorité, mais on est dans le Beth Amikdash. Suite à cela, Troisième brisure, Ufkea Ha'ir, la première brèche dans la muraille de Jérusalem. Alors d'abord, il faut savoir que quand on dit la première brèche dans la muraille de Jérusalem, est-ce qu'on parle du premier temple, c'est-à-dire des combats qui vont amener à la destruction du premier temple, donc les Babyloniens, moins 586, ou est-ce qu'on parle des Romains en l'an 70? D'après le Talmud de Babylone, il s'agit des deux, et de la première brèche du temps des Romains et du temps des Babyloniens. Pourquoi est-ce qu'on parle donc du 17 Tammuz? Parce que c'est les deux. Maintenant, le problème, c'est que dans le Talmud de Jérusalem, ce n'est pas du tout ça qui est marqué. Dans le Talmud de Jérusalem, on nous dit qu'au contraire, il s'agit le 17 Tammuz de la deuxième brèche, c'est-à-dire de l'époque des Romains. Pourquoi? Ça nous dit le Talmud tout simplement parce que dans ce qui est de la première brèche du premier temple, la Torah, le Tanakh, nous dit que ça a eu lieu, pas le 17 Tammuz, mais que ça a eu lieu le 9 Tammuz. C'est marqué noir sur blanc que ça a eu lieu le 9 Tammuz. Nous dit Zé Tisha Bet Tammuz Shebouf Kehair dans la Tosefta Rosh Hashanah Yutret Amudbet. Haïnu Barishona Aval Bashenia Ufkea Beyudzaïn Bet Tammuz. Ou Mishunach Inavdina Beyudzaïn Bet Tammuz. C'est-à-dire qu'on nous dit la première fois ça a été le 9 Tammuz. La deuxième fois c'était le 17 Tammuz. Donc pourquoi on a gardé le 17? Parce que c'est le plus proche de nous. Mais quoi? Je n'ai pas compris. Le Talmud se trompe donc de nous dire que ça a eu lieu le 17 Tammuz. La Torah a dit que ça a eu lieu le 9 pour le premier, le premier Beit HaMikdash. Et Tosfot va nous raconter la chose suivante. Donc je continue dans ce qu'on a commencé à dire dans Tosfot, pas à Tosefta, Tosfot, je dis n'importe quoi. Nous dit Tosfot qu'effectivement, le Tanakh, il dit que ça a eu lieu le 9 Tammuz pour le premier Beit HaMikdash. Aval, en fait, ça a eu lieu le 17. Et pourquoi ça a eu lieu le 9? Pourquoi on a marqué le 9? Eh bien, en fait, parce que Balbela Anevoa. La prophétie a été perturbée. Pourquoi? Parce qu'au moment où Jérémie écrit la Nevoa, il voulait écrire sous la dictée de Dieu que ça a eu lieu Betov Betamouz. Mais c'est Tov Betamouz, c'est 17. Le mot Tov, pour Gematria, pour valeur numérique, le mot 17. Et donc, il voulait écrire Tov Betamouz. Et au moment où il écrit, ça commence le tête, on vient de lui apprendre par Nevoa que les Babyloniens sont en train de détruire le Beit HaMikdash. Et là, Itbal Beloach Heshbonot nous dit, Tosfot, c'est machal, comme un Meller qui était en train d'écrire un roi qui écrivait ses comptes, et tout d'un coup, on lui apprend que son fils meurt, il a fait une erreur de calcul. En d'autres termes, Itbal Bela Nevoa, mais qu'est-ce que ça veut dire Itbal Bela Nevoa? C'est Dieu donc qui a été Itbal Bel, entre guillemets. En fait, c'est pas qu'il est Itbal Bel. C'est que dans la mesure où cette destruction nous rend complètement perturbés, eh bien Dieu va nous dire qu'il est avec nous dans ce bilboul. Donc 17 Tammuz, que ce soit le premier ou le deuxième Beit HaMikdash, c'est le moment où la ville a commencé à tomber. C'est-à-dire que vous voyez que la brisure, cette fois, n'est plus dans le Kodesh HaKodeshim, n'est plus dans le Beit HaMikdash, elle est dans toute la ville de Jérusalem. Il y a une quatrième brisure, c'est ce soldat Apostamus qui a détruit, qui a brûlé un Sefer Torah. De quoi s'agit-il exactement? Si on devait jeûner à chaque fois qu'un Sefer Torah a été brûlé dans l'histoire juive, on ne mangerait pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ce Sefer Torah-là qui a été brûlé? De quoi s'agit-il? Dans la Torah, ce n'est pas marqué. Il faut aller regarder dans des sources extérieures, par exemple Flavius Joseph. Et Flavius Joseph nous écrit dans Milchemot HaYehudim, dans la guerre des Juifs contre les Romains, hein, il nous raconte comment la guerre a commencé. Et il nous raconte qu'en fait, il y a eu un pillage qui a été fait par des Juifs dans un camp romain près de la ville de Beth-Horon. À ce moment-là, les Romains ont été extrêmement énervés par ce pillage. Ils sont venus dans la ville de Beth-Horon et sous couvert de chercher les pillards, je crois qu'on dit, ils ont violé, massacré, ce que tu veux. Et il y a un légionnaire qui se faisait appeler Postamus. Maintenant, Postamus, ce n'est pas un prénom. Postamus, c'est un titre. Un titre qui était donné à un légionnaire qui était fils de légionnaire et qui était né alors que son père était déjà mort, mort au combat. Postamus, après la mort, en latin. C'est-à-dire que c'est un titre qu'on donnait à ces légionnaires-là. Et donc, on parle d'un légionnaire romain qui, en représailles ou par acte de provocation, au milieu de Beth-Horon, a pris un Sefer Torah et l'a brûlé dans la place centrale de la ville. Et répond écrit Flavius Joseph qu'à ce moment-là, les Juifs d'Israël qui ont entendu ça ont ressenti cet événement aussi difficilement C'était pour eux tellement dur le fait qu'on ait brûlé un Sefer Torah que c'est comme si on brûlait une partie de leur terre. Et c'est ça qui les a lancés en guerre pour la terre d'Israël, la grande révolte. En d'autres termes, dans cette quatrième brisure, eh bien, nous ne sommes plus dans une brisure à l'intérieur de la ville seulement, mais nous sommes dans une brisure qui a touché la terre d'Israël tout entière. Eh oui. C'est un cercle de brisures concentriques, mais qui s'écarte, telle une pierre qu'on ferait tomber dans l'eau et qui verrait le cercle qui brise l'harmonie de l'eau grandir et grandir. Et nous arrivons enfin au dernière chose qui s'est passée le 17 Tamouz. Et cette dernière chose qui s'est passée le 17 Tamouz, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement au Hamad Tselem Ba'echal. On a mis une statue dans le Echal. Alors, plusieurs avis des commentateurs viennent nous dire qu'il s'agit peut-être du roi Ménaché, à l'époque du premier temple, qui a mis une statue dans le Beth Amikdash. On parle peut-être dans d'autres avis de Antiochus, à l'époque des Grecs, qui aurait mis une statue de Zeus dans le Beth Amikdash. On peut parler peut-être de Titus, qui aurait mis une statue de Jupiter dans le Héral. On peut peut-être parler d'Adrien, l'empereur romain après la guerre de Bar Corba, qui a fait construire un temple de Vénus à l'endroit du Beth Amikdash. Ou alors, on peut se rattacher à autre chose, à une autre explication qui nous provient directement du livre de Habakkuk. Habakkuk Hanavi nous dit, dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 20, « Ve'ashem be'echal kocho has mipanav kol haaretz. » Quel est Echalo shel HaKadosh Baruch Hu ? C'est quoi le Echal de Dieu ? Alors oui, c'est le Beth Amikdash, mais c'est plus généralement kol haaretz, le monde entier et le Echal de Dieu. Aha. Et donc, alors, c'est quoi ça ? Qu'on aurait mis une statue dans le monde entier ? Eh bien, Manitou, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, va ramener une massorette séfarade très ancienne. Une massorette séfarade très ancienne qui viendrait des premiers exilés, après la destruction du deuxième temple, à savoir les Juifs qui seraient arrivés à Djerba. Les Juifs qui seraient arrivés à Djerba, qui auraient construit la synagogue de la Griba, bien connue, eh bien là-bas, il y a une tradition des Kohanim de Djerba, qui évidemment étaient toujours le Yad al Hadofek, qui étaient très très volontaires pour qu'un jour ils puissent revenir à Jérusalem et resservir au Beth Amikdash. Eh bien, une tradition, dit Manitou, qui vient de là-bas, qui nous dit que le jour... Et ça vient d'eux, c'est eux qui ont gardé cette tradition, bien que habitant dans un pays musulman. Mais il ne faut pas oublier que Djerba est devenu musulman que beaucoup plus tard, lorsqu'il y a eu l'Empire, lorsque les musulmans ont commencé à voir le jour au 7e siècle. Avant cela, je vous rappelle que toute cette zone est sous domination carthaginoise. L'Empire de Carthage, Tunis. Et lorsque les Carthaginois ont été dominés par les Romains, détruits par les Romains, eh bien, ça devient une partie de l'Empire romain, une colonie romaine. Et lorsque l'Empire romain devient chrétien, lorsque Constantin devient chrétien, eh bien, nous disent Rahmé Djerba qu'ils ont une massorette comme quoi le jour où Constantin a accepté le christianisme comme étant la religion du monde connue donc de l'Empire romain, c'était le 17 Tammuz. En d'autres termes, c'est quoi cette statue qui aurait été mise dans le monde ? Eh bien, on parle ici du christianisme. En d'autres termes, cette fois, cette brisure dans la Emouna et dans le lien avec Dieu est dans le monde entier. Et on voit comment le christianisme s'est répandu dans le monde entier. Ainsi, ce 17 Tammuz, eh bien, c'est le point de départ à chaque fois d'une brisure un peu plus large à chaque fois. Je dis point de départ parce que, évidemment que le fait que Bouta la Tamide, c'est un point de départ dans la brisure du Beth Amikdash, mais ce n'est pas encore la destruction du Beth Amikdash. De la même façon, eh bien, quand les Romains ou les Babyloniens rentrent dans la ville, ce n'est pas encore la chute de la ville. De la même façon que lorsque la grande révolte commence contre les Romains, ce n'est pas encore la chute du pays. Et lorsque le christianisme commence à se développer, ce n'est pas encore... Eh bien, la religion chrétienne qu'on connaît aujourd'hui, qui a sa marque partout dans le monde. Le 17 Tammuz est donc un début de problème. un début de problématique. Tisha B'Av, cinq choses sont arrivées à Tisha B'Av, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais ce sont les conclusions des cinq choses qui sont arrivées le 17 Tammuz, évidemment. Là aussi, on retrouvera ce cercle concentrique qui grandit, qui grandit. Mais lorsqu'on voit cela, on peut être face à une grande désillusion, une grande déception et une grande, j'ai envie de dire, déprime. Puisqu'on se dit, ben voilà, c'est le début de la fin. Oui, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas encore la fin des haricots, les carottes ne sont pas cuites. Tu peux encore, peut-être pas changer la donne, ça c'était pour le dit Tevet, tu peux peut-être changer la donne à l'époque du dit Tevet. À l'époque du 17 Tammuz, ça commence à devenir vraiment dur à changer les événements. Mais c'est le moment où tu peux sauver ce qu'il y a à sauver. C'est le moment où tu peux rattraper les dernières choses à rattraper pour que justement, ça ne soit pas véritablement une fin, mais que ça ne soit qu'une pause. Et pour ça, il faut se rattacher à la première chose qui a eu lieu le 17 Tammuz. La première chose, on a dit, c'est la brisure des louchot de Moshe. Mais pourquoi Moshe a fait ça? Moshe a fait ça pour sauver le peuple juif. Et oui, il tient les louchot dans sa main et face à lui, le peuple juif qui fait l'idolâtrie. À ce moment, il y a une stira, une contradiction complète entre Am Israël et la Torah des louchot. Puisqu'il y a marqué dans la Torah des louchot, « Lota asel chapesel vechol temuna » et Am Israël est en train de se prosterner devant le veau d'or. À ce moment-là, dans le Midrash Tanhuma, nous dit que Dieu dit à Moshe, « Je vais tous les tuer ». Et Moshe, il dit, pourquoi t'es comme ça? Il dit, mais ils font n'importe quoi. Il dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'idolâtrie, regarde le veau d'or. Il dit, Asma, ma baya. Il dit, c'est assour. Il dit, ah bon, c'est assour. Et faisait katou. Dit Moshe, où c'est marqué? Ben là, dans les louchot que tu tiens dans la main, regarde, l'ota, c'est le chapesel, le choltemuna, tu ne feras pas d'image. Et là, Moshe, il brise les tables et il dit, et maintenant, il faisait katou. En d'autres termes, Moshe comprend que s'il y a contradiction entre la Torah et le peuple juif, eh bien, il faudra d'abord et avant tout sauver le peuple juif. À cela répondra Rashi dans le dernier Rashi de la Torah, où le chol ayad achazaka asher asa Moshe leene bene Israël. Eh bien, nous dit Rashi, le chol ayad achazaka, c'est qu'il a brisé les tables. Et Dieu lui a dit, Yishar kochacha sheshibarta, bien joué. Parce que tu as compris quoi? Eh bien, qu'il fallait à tout prix préserver l'âme Israël pour qu'il puisse corriger les problèmes et se relever. Ainsi, le 17 Tammuz, qui est le début des problèmes, eh bien, on peut y trouver quand même un réconfort. C'est que ce début des problèmes nous donne à nous, maintenant, la responsabilité de corriger. Et c'est pour ça que 17, Begematria, Zetov, il y a quelque chose de positif derrière tous ces malheurs, qui est que maintenant, on peut être capable, nous, de corriger cela. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ainsi nous dira la Gemara dans le traité de Baba Kama, « Aroé tet bachalom » celui qui voit un tet, la lettre tet, dans un rêve, eh bien, « itzpe le tov » qu'il s'attend à avoir du bien. Parce que la première fois on voit la lettre tet arriver dans la Torah, c'est pour le mot « tov ».« Vayar Elohim ki tov ». C'est de ça qu'on parle. Le 17 Tammuz, c'est un jeûne parce qu'il nous est arrivé des grands problèmes. Mais ces grands problèmes doivent nous servir de point de départ pour corriger là où on a bugué, pour corriger là où on a été effectivement en train de partir en cacahuète. Et lorsqu'on aura réussi à corriger cela, alors on réussira à faire de ces trois semaines, non pas trois semaines de deuil, mais trois semaines de correction et de préparation pour pouvoir enfin arriver à Tisha B'Av et non plus en tant que jour de drame, mais pour le transformer en jour de fête tel qu'il est marqué dans le Megillah de Eicha, « Vekarata alai mo'ed lishbor bachurai » pour que ce jour de Tisha B'Av ne soit plus la conclusion des malheurs, mais soit tout simplement la réussite de la correction des problèmes qui avaient commencé le jour du 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est non pas le jeûne du 17 Tammuz, mais c'est le jeûne pour pouvoir faire de ce jour Tov B'Tammuz. À bientôt tout le monde.